Alors, je vous laisserai, si vous avez des questions après, là, on pourra prendre ça. Alors, là, Marie de Magdala, donc, fait l'expérience de Jésus ressuscité. Elle va annoncer aux apôtres, il est vivant, il est ressuscité. On l'accepte difficilement. Alors, Marie-Madeleine, on va dire qu'elle est l'apôtre des apôtres. Hein? Parce que c'est la première à qui Jésus va se manifester. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie. Le mot « apôtre » veut dire « envoyé » ou « missionnaire ». Donc, Marie de Magdala, elle est l'envoyée aux apôtres. Elle est la missionnaire vers les apôtres qui eux-mêmes sont des envoyés, des missionnaires. Alors, et ce n'est pas toujours, hein, c'est pas bien reçu comme je l'ai dit. On va faire un petit, je voudrais qu'on regarde Marie-Madeleine, pas seulement dans son histoire, mais en quoi ça peut nous rejoindre, nous, aujourd'hui, hein, la personne de Marie-Madeleine, son témoignage. Comment ça peut nous rejoindre, nous, aujourd'hui? Et ce qui est demandé à Marie-Madeleine, ce qu'elle a vécu, eh bien, c'est aussi notre expérience à chacun, chacune d'entre nous, avec les nuances, bien entendu, que chacun d'entre nous a sa personnalité, son histoire propre. Alors, tout d'abord, si on veut être vraiment des missionnaires, si on veut être des envoyés, alors, qu'est-ce que ça implique? Alors, première chose, on va revenir au point de départ. Vous vous rappelez le point de départ? Qu'est-ce qui est arrivé? Marie de Magdala fait l'expérience de l'action de Jésus qui la libère, qui la libère de son passé, qui vient la guérir. Et ça, c'est une action importante. Si on veut être des disciples missionnaires, comme nous dit le pape François, eh bien, première chose, libération par rapport à notre passé. Pensez au prophète Isaïe. « Les péchés de votre jeunesse, je ne m'en souviendrai plus. Moi, le Seigneur, je pardonne et j'oublie. » Donc, c'est important, d'abord, de faire cette expérience que notre passé, le Seigneur le pardonne et l'oublie. Des fois, dans le sacrement du pardon, il y a des gens qui me disent, « Oh, mon Père, je ne me rappelle pas si j'ai dit ça au sacrement du pardon, telle affaire que j'ai vécue quand j'étais jeune. » Écoutez, là, si on se met à brasser des affaires du passé, on n'en finira plus. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous remonter en surface, à un moment donné, puis dire, « Oh, je ne sais pas, peut-être que... » Écoutez, la miséricorde de Dieu. Moi, je fais comparaison, vous savez, c'est comme vous autres qui avez eu des enfants, peut-être parmi vous, hein, votre grand gars, votre grande fille, qui a peut-être 40 ans aujourd'hui, qui viendrait vous voir, puis qui dirait, « Hey, père, hein, maman, hein, tu te rappelles, quand j'avais 15 ans, je t'ai donné de la misère. » Moi, il pourrait dire, ben « Oui, c'est correct, je m'en souviens, là, mais c'est fini. » Puis qu'un mois plus tard, il revient de vous voir, puis il dit, « Hey, père, maman, vous vous rappelez quand j'avais 15 ans? » Il dit, « Ben oui, mais on a parlé l'autre fois, là, c'est fini. Hein? » Ce serait manquer de confiance en votre amour paternel ou maternel. Hein, ça vous blesserait, vous direz, « Ben, écoute, j'ai un cœur de maman, un cœur de papa, je suis pardonné, c'est fini, on passe à autre chose. » Mais on fait ça avec le bon Dieu, des fois. On ressasse toutes nos vieilles affaires, comme si on manquait de confiance en sa miséricorde. Première chose, être confiant en la miséricorde de Dieu. C'est ça que Marie-Madeleine va faire comme expérience. Le Seigneur l'a guérie, le Seigneur va la libérer, le Seigneur lui pardonne. OK, c'est fait. Bon, première étape, là, on ne revient plus sur nos vieilles affaires. On compte sur la miséricorde du Seigneur. Deuxième chose, alors, je me fais compagnon de compagne de Jésus. Si je veux être un bon missionnaire, il faut que je me mette à son école. Il est le maître, n'oubliez pas, vous le reconnaître par la suite. Mais déjà, depuis la Galilée, elle va suivre Jésus. Elle va se mettre à son école. Qu'est-ce que j'apprends de Jésus? Qu'est-ce que Jésus veut me donner comme instruction, comme enseignement? Se mettre à son école. Et un des lieux où on peut apprendre qui est Jésus, c'est les Saintes Écritures. Dans l'Évangile de Saint-Luc, c'est très clair. Puis Jésus va revenir là-dessus. Il va leur expliquer aux disciples d'Emmaüs et à ses apôtres réunis tout ce qui le concernait à partir de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Donc, Jésus est le maître. Donc, à partir des Saintes Écritures, hein, me laisser guider, me laisser éclairer. J'ai donné une retraite durant la Semaine Sainte. Et la retraite, c'était une lectio divina. C'est quoi ça, une lectio divina? C'est une lecture priante de la parole de Dieu. J'ai pris pendant la retraite, pendant une semaine de temps, du lundi au samedi, excepté le vendredi parce que il n'y avait pas d'enseignement. Mais j'ai pris le chapitre 22 de Saint-Luc, 23 et 24. En effet, on allait quelques versets à la fois, mais en les méditant, en les priant. Et beaucoup de retraitants disaient, c'est la première fois que je fais une retraite et je goûte ainsi la parole de Dieu. Jésus, à travers sa parole, nous instruit, nous enseigne. Ce n'est pas seulement une parole d'il y a 2000 ans, mais c'est une parole pour aujourd'hui. Et donc, Marie de Magdala nous apprend, en se faisant compagnon, compagne de Jésus, avec les apôtres, les autres femmes, elle se met à son école, se met à l'école de Jésus, lire la parole de Dieu. Et même, moi, un petit moyen que j'ai donné aux retraitants, et que je fais moi-même, alors, Jacqueline et Claire pourront vérifier ça, alors, j'écris le texte de la Bible. Alors, j'avais mettons, chapitre 22 de Saint-Luc, j'écris quelques versets. Je les laisse reposer, je les porte dans ma prière. Puis après ça, le lendemain, le surlendemain, j'écris quelque chose qui me vient dans le cœur, sous forme de prière ou de réflexion. Puis je continue après ça. J'écris encore quelques versets, j'arrête. Je les porte dans ma prière. Et c'est incroyable, la lumière que nous recevons à ce moment-là, en prenant le temps d'écrire lentement le texte de la parole de Dieu, puis en le laissant porter dans notre prière. Alors donc, Marie-Madeleine nous apprend que si on veut être un bon disciple, il faut bien saisir l'enseignement que Jésus nous donne, nous mettre à son école. Mettez-vous à mon école, dit Jésus. Mettez-vous à mon école. Alors, donc, voilà. Et puis, maintenant, c'est important, c'est la fidélité. La fidélité. Alors, qu'est-ce que Marie-Madeleine nous apprend dans le quotidien? Parce que vous savez, elle va suivre Jésus, là, depuis la Galilée. Alors, en Galilée, il y a eu un peu de tout. Il y a eu un peu de tout en Galilée. Et puis, elle va le suivre dans le quotidien de la vie, avec les hauts, les bas. Bon, elle va le suivre. Puis, elle va le suivre jusqu'à la croix. La fidélité. Voilà une dimension importante, si on veut être des disciples missionnaires, que l'on soit des hommes et des femmes de fidélité. Et des fois, c'est pas facile. C'est vrai. On aurait le goût de lâcher, de laisser tomber. Oh. Puis regardez tous les questionnements qui surgissent actuellement dans notre Église. Un jour, il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un qui va régulièrement à l'Église, à la messe le dimanche, il me disait, avec tout ce que j'entends dire des prêtres, il dit, là, ça ne me tente plus bien d'aller à la messe. Vous voyez? Mais si lui, que je connais, qui est une personne quand même croyante, engagée, réagit ainsi, je dis, combien d'autres personnes réagissent de cette façon-là? Alors, notre fidélité est mise à l'épreuve actuellement, devant des questionnements, devant des situations, des scandales qui surgissent. Est-ce que nous allons rester fidèles ou est-ce que nous allons abandonner? Alors, Marie-Madeleine nous apprend, depuis la Galilée jusqu'à la croix, la fidélité. Et cette fidélité au moment le plus dur de l'épreuve, au moment de la mort de Jésus. Vous aviez les disciples d'Emmaüs, eux autres, ils sont tous dégonflés. Nous pensions, nous espérions que ce serait lui qui sauverait Israël, et voilà qu'il est mort. Nos chefs l'ont livré à la mort. Ils sont dégonflés. Mais Marie-Madeleine, elle persévère. Vous voyez, elle est là. Et c'est important aussi, vous savez, lorsqu'on vit des moments éprouvants dans nos vies, c'est pas le temps de lâcher. C'est qu'à travers une épreuve, des fois, à travers les nuits que nous pouvons traverser, ce sont des moments de croissance aussi. On a de la misère à saisir ça. Mais pourtant, Jésus nous dit que le royaume de Dieu grandit de jour et de nuit. Ça grandit aussi dans la nuit. Au cœur de l'épreuve, il y a une croissance qui se fait. Et puis, persévérer à ce moment-là. Et un dernier point que vous savez, alors, être missionnaire dans notre monde d'aujourd'hui, un peu comme Marie-Madeleine, c'est pas toujours bien reçu. On voit la réaction des apôtres. On les croit pas. On la croit pas. Est-ce que ça nous arrive, nous autres, qu'on ne nous croit pas? Oui, je crois. Ça arrive. Alors, vous savez, malgré l'obstacle, malgré les résistances qu'on peut rencontrer dans notre monde d'aujourd'hui, continuez à témoigner de notre foi. On n'a pas, je dis souvent, on n'a pas à convaincre les gens. Essayons pas de convaincre le monde. On n'a pas à les convaincre. Nous avons à témoigner. Et le Seigneur fera le reste. À nous, il est demandé de rendre témoignage. Puis de témoigner, ça peut être à travers un geste, une parole, ça peut être un conseil à chacun de discerner dans l'esprit la façon de rendre témoignage. Mais je n'ai pas à convaincre. Je rends témoignage et je sais que Dieu continuera à faire son œuvre. Je pense ici, vous savez, dans l'Évangile, quand Jésus fait la multiplication des pains, qu'est-ce qu'il le demande? Qu'est-ce que vous avez, vous autres? On a 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus dit? Amenez-les-moi. Et lui va multiplier. À nous, il est demandé d'apporter nos 5 pains, nos 2 poissons. Jésus multipliera. OK? Et ça, c'est important. Puis, je regarde des fois des parents qui sont un peu dégonflés parce que, ils ont fait baptiser leur enfant, mais les enfants n'ont pas fait baptiser les petits-enfants. Et des fois, j'entends des grands-parents qui désireraient, j'aimerais donc ça que mes petits-enfants soient baptisés. Et on sent comme, ça dégringole. Eh bien, nous avons à garder, à donner encore un témoignage. Je n'ai pas à les convaincre, mais j'ai à témoigner de ma foi en Jésus. Et un aspect de notre témoignage, et le pape François y revient, c'est la joie. Il faut que notre témoignage soit joyeux. Si on a là des hommes et des femmes tristes à la suite de Jésus, ça ne mordra pas. Que notre témoignage soit joyeux. Alors, et c'est un fruit de l'Esprit-Saint que la joie. Le premier fruit, la charité. Le deuxième, la joie. Que notre témoignage soit joyeux. C'est contagieux. Quelqu'un qui dit, t'as l'air heureux, il y a quelque chose chez toi, qu'est-ce qui se passe? Et cette joie-là interpelle, interroge le monde, et c'est une porte ouverte à ce moment-là pour témoigner de notre foi en Jésus. D'ailleurs, Jésus le disait, je voudrais que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et qu'est-ce qu'on se dit dans le temps de Noël? Joyeux Noël! Quand arrive le Pâques, qu'est-ce qu'on dit? Joyeuse Pâques! C'est pas pour rien! La joie doit être quelque chose de caractéristique, certes la charité, mais une charité joyeuse, vous voyez? Une charité joyeuse, ça doit être caractéristique du témoignage que nous sommes appelés à rendre dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, voyez Marie-Madeleine, donc, toutes ces étapes-là, à travers elle, nous avons un peu comme un témoignage, un enseignement qu'elle nous donne pour être des missionnaires, nous aussi. Voilà un peu quelques réflexions. Est-ce que vous avez des questions sur à propos de ce texte de Marie-Madeleine ou quelques précisions que je pourrais apporter? Oui, parle assez fort parce que...
Est-ce que c'est la main qui a essuyé les pieds de Jésus?
Bonne question. Alors, c'est ça. Alors, vous avez... Est-ce que... des fois, dans Saint-Luc, si je m'appelle, c'est chapitre 7 ou chapitre 8 de Saint-Luc, la pécheresse qui va amener chez Simon le pharisien et qui va laver les pieds de Jésus, qui va les essuyer avec ses cheveux, alors, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est Marie de Magdala? Les exégètes disent non. Ce ne serait pas la même, ce serait une autre femme à ce moment-là. Et qu'il ne faut pas confondre aussi avec Marie de Béthanie. Alors, la sœur de Marc et de Lazare. Marie de Magdala n'est pas Marie de Béthanie. Ce n'est pas la sœur de Lazare. Parce que aussi au chapitre 11 de Saint Jean, puis au chapitre 12, on voit encore Marie qui va laver les pieds, mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Ce n'est pas Marie de Magdala. Marie de Magdala, tout ce que nous savons, pas tout, mais on en sait beaucoup, c'est ce que je vous ai dit dans Saint-Luc, à savoir celle qui était possédée, que Jésus a libérée, guérie, qui va accompagner Jésus et qui va l'accompagner, puis en même temps, vont mettre en commun, ça c'est une autre chose que je n'ai pas mentionné, mais elles vont aider Jésus avec leurs ressources. C'est-à-dire que, probablement qu'ils ont de l'argent, ils ont des services qu'ils vont rendre au groupe des apôtres avec Jésus. Alors, vous voyez, c'est elle qu'on va retrouver au pied de la croix, c'est elle à qui Jésus va apparaître. Ça, c'est certain concernant Marie de Magdala, vous voyez. Mais tant qu'à la pécheresse dans Saint-Luc qui s'amène chez Simon le pharisien, non, c'est pas Marie de Magdala. Et l'autre, Marie de Béthanie, ce n'est pas Marie de Magdala non plus. OK? Celle qu'on appelle Marie-Madeleine, c'est celle dont je viens de vous parler, là. Mais c'est pas celle qui est allée chez Simon le pharisien puis qui a lavé les pieds. Puis là, Jésus, il dit à Simon, « Je suis venu, tu m'as rien fait, tu m'as pas lavé les pieds, rien. Mais cette femme, hein, depuis que je suis arrivé, elle n'a cessé. Elle a beaucoup aimé. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Ce n'est pas Marie-Madeleine. En tout cas, rien ne nous amène à conclure que c'est Marie-Madeleine. OK? Voilà. Ça va pour ça? J'ai oublié d'apporter cette précision. Bon. OK.
Quand elle dit Seigneur, parle au jardinier, Seigneur.
C'est oui.
Elle est Seigneur. Elle peut dire jardinier, mais elle dit Seigneur.
Oui, c'est vrai. Elle dit Seigneur. C'est que le mot Seigneur voudrait dire Monsieur aussi, en un sens. Mais il faut dire que ces textes-là sont écrits après, plusieurs années après la mort et la résurrection de Jésus. Il y a donc comme la foi qui se trouve à s'insérer dans le texte biblique à ce moment-là. Oui.
Pourquoi on ne parle pas de Marie, la mère de Jésus, dans l'histoire de la mort, dans l'histoire de la résurrection? Pourquoi beaucoup Marie? Pourquoi c'est une femme?
Ben, on a parlé beaucoup de Marie-Madeleine, puis on ne parle pas de Marie. C'est pourquoi c'est une femme. Pourquoi la mère de Jésus est absente? On n'en parle plus à partir... On va en parler un petit peu dans les Actes des apôtres quand on dira que les apôtres sont réunis avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. C'est après ça une grande discrétion concernant Marie, la mère de Jésus. Mais je pense que ça peut tenir aussi au fait que Marie... Mettez-vous dans la peau de... Bon, moi, ma mère, là, prenez une mère qui... Moi, je suis prêtre. Et qu'est-ce qui importe beaucoup là, pour la mère d'un prêtre, souvent? C'était de l'attention à son fils. Je vais vous donner juste un petit exemple. Moi, ma fête, ça tombe à la mi-mai. Puis, ça arrive que c'est le dimanche de la fête des mères, en même temps. Je me rappelle quand les gens, mes frères et sœurs, mes belles-sœurs, rentraient à la maison, puis disaient, au jour de la fête des mères, « Bonne fête, Madame Grenon! » Tout de suite, ma mère s'empressait à dire, « C'est aussi la fête de Germain. » Elle ne voulait pas que je passe aux oubliettes. Hein? Elle était prête, là, oups, vite à passer. Bon, un petit exemple. Mais je dirais, c'est un peu la même chose, en plus gros. Alors, les apôtres, alors, s'ils viennent pour parler de Marie, j'imagine un peu Marie dire, « Ben non, c'est Jésus, parler de Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui est Dieu, c'est lui le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Parlez pas de moi, parlez de lui. » Je comprendrais que Marie, à quelque part, cherche aussi à s'effacer pour laisser la place à Jésus. « Je suis l'humble servante du Seigneur, » disait-elle, et me semble-t-il que ça doit s'appliquer aussi à l'ordre après la résurrection. Ce n'est pas important de parler de moi, c'est important de parler de lui. Et c'est pour ça que je comprendrais un peu un silence. Il n'y a rien de... Mais quand tu arriveras au ciel, tu y demanderas à Sainte Vierge.
Elle est intervenue bien des fois.
Dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Mais là, c'est ce qui arrive, c'est qu'il veut dire pourquoi dans le texte de l'Évangile, il n'est pas question de Marie. Ben, c'est comme ça que ça.
La mort de son fils.
Oui.
La mère qui perd son fils, ben, il semble qu'on l'entend parler énormément. Et dans le cas de Marie, peut-être que par respect, peut-être, comme tu dis, on a laissé la place beaucoup plus à Jésus qu'à Marie.
Mm-hmm.
Possiblement, beaucoup d'autres choses.
Oui.
Mais quand même.
La première proclamation de foi sur Marie au Concile d'Éphèse, Marie, Mère de Dieu, c'était pas pour tant parler de Marie que de parler de celui que Marie portait. Alors, quand on parle de Marie, Mère de Dieu, c'était surtout pour affirmer que le petit qu'elle avait porté dans son ventre, il était déjà Dieu en elle. Vous voyez? C'était pas tellement de dire quelque chose sur Marie comme de dire quelque chose sur Jésus, qui était Dieu déjà dans le sein maternel de Marie. Vous voyez? Alors, c'est venu plus tard là, de parler plus de Marie. Mais au départ, je comprendrais que Marie, la maman, dise « Parlez de mon fils, c'est lui qui est Dieu. » OK, on s'arrête là-dessus. Alors, vous allez avoir un temps d'échange tantôt en groupe. Là. Mais essayez de voir, hein, toujours de voir Marie de Magdala, non pas comme une personne historique dans l'histoire, mais comment elle peut m'éclairer, me guider, m'accompagner aujourd'hui pour être moi aussi un missionnaire, un apôtre? Pardon?